Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Il est une réalité que les Parisiens, les gens de la capitale, si vous me permettez l'expression, ont du mal à appréhender le fait qu'en province, sortie des grandes villes, même comme Toulouse, la campagne, le monde rural, est proche, tout proche, la campagne et tous ses trésors. Il n'y a qu'à se pencher pour découvrir cette douce France de Charles Trenet et ses merveilles qui réjouissent et qui déplacent. Aujourd'hui, cap sur le Lot et sur cet autre grand poumon spirituel de notre sud-ouest qui est le sanctuaire de Rocamadour. Un haut lieu touristique, un lieu saint, accroché au rocher d'une falaise, comme pour nous persuader que dans nos vies, à force de gratter, l'on finit toujours par trouver un peu plus qu'attendu. Site exceptionnel d'Occitanie, cap sur Rocamadour ce matin pour cette deuxième émission qu'on essaye, voilà, puisqu'on s'essaye donc à une série sur ces grands sites d'Occitanie. L'occasion en ces temps de pandémie de se remettre du baume au cœur et de redécouvrir tous ces beaux lieux de notre région, ces lieux saints. Avec nous pour nous en parler ce matin, Florent Millet, vous êtes prêtre du diocèse de Cahors et recteur du sanctuaire Notre-Dame de Rocamadour, bonjour. Voilà, on vous entend pas très bien, je vous redis donc bonjour, bonjour.
Oui, bonjour.
Cette fois, c'est la bonne. Marie-France, vous êtes religieuse de Notre-Dame du Calvaire, en service au sanctuaire de Rocamadour, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu présent tous les deux. Nos excuses auprès des auditeurs pour cette présence téléphonique, mais ça en fait des kilomètres pour venir jusqu'à Toulouse. Et puis vous êtes comme tout le monde dans ces, on va dire, en ces temps de crise sanitaire, probablement bien occupés ou peut-être plus avec des agendas plus compliqués que d'habitude. On va donc mettre cap sur Rocamadour. Rocamadour, c'est aussi un village. J'ai choisi comme ambassadeur pour commencer cette émission, Stéphane Bern, figure connue en France, qui travaille à mettre en valeur le patrimoine de la France, de ce beau pays. On le retrouve dans une émission où il se rendait dans ce village de Rocamadour.
Ce village du Lot, situé sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, est formé de maisons et d'églises qui surplombent la vallée de l'Alzou. Rocamadour, 645 habitants, est un village très vivant, bien qu'isolé. Qu'on y vienne à pied comme les pèlerins, ou en voiture comme moi, ça fait plus de 1000 ans que le charme opère.
Bon, je peux pas aller plus loin.
Ah mais voilà, enfin, à Rocamadour. J'ai rendez-vous avec Monsieur Delpech. Il faut que je me dépêche. Christian.
Bonjour, Stéphane.
Comment ça va?
Comment allez-vous? Très bien.
Ouh. Eh bien, c'est sportif ici, à Rocamadour.
Totalement. Regardez. Mon village d'amour.
D'amour?
Ah oui.
Vous l'aimez d'amour?
Complètement. Complètement.
Et il y a une rue?
Une seule. Et... une rue principale. Les maisons sont sur le ruisseau,
ouais.
Les églises sur les maisons et le château sur les églises. Et donc la vie est un petit peu dans la rue, effectivement, mais c'est surtout là où ça se passe.
Ah, qu'est-ce qui se passe là-haut?
Eh bien, là-haut, c'est un endroit extraordinaire.
C'est le sanctuaire.
Voilà, pour la fin un peu cut, on découvre donc avec Stéphane Bern le début, ça nous a mis dans l'ambiance, donc ce village qui est donc une ville sanctuaire. Alors il y a une expression, Florent Millet, de votre mère ou de votre ancien mère je crois, c'est des maisons sur le ruisseau, des églises sur les maisons et un château sur les églises. Y a-t-il autant de couches que ça à Rocamadour?
Effectivement. Si vous venez, vous êtes tout de suite saisi par la hauteur vertigineuse de cette falaise, et puis effectivement, on est bien obligé, moi de là où je suis au sanctuaire, de me pencher pour voir toute la vallée et puis les maisons qui sont en dessous, et puis bien sûr, il faut que je lève la tête pour voir le château qui est au-dessus. Donc on est vraiment voilà dans une position verticale ici à Rocamadour. Il n'y a pas un seul endroit qui soit plat.
Alors si vous deviez nous prendre un petit peu par la main, comme les touristes le font, donc on arrive souvent donc par la rue, on va dire qu'on arrive par la rue, disons qu'on arrive par le bas, voire même par le ruisseau, donc on rentre dans ce village qui est comme en enfilade, à quoi ça ressemble ?
Alors, ce village a été construit au moment où le sanctuaire se construisait aussi, Et donc, du coup, c'est un village construit à peu près au 12e, 13e siècle, avec d'autres rajouts ensuite plus tard. Et donc, ce village, en fait, est très typique du Quercy, typique aussi du Haut Moyen Âge, et ce qui fait que, eh bien, les gens peuvent voir des petites échoppes, beaucoup de magasins aujourd'hui, puisque beaucoup d'ateliers qui pouvaient y avoir avant sont transformés en magasins ou en restaurants ou en hôtels. Voilà. Et donc, vous avez une enfilade en période, bien sûr, estivale, parce qu'actuellement, quasiment tout est fermé, une enfilade de magasins, de boutiques, voilà, de lieux, voilà, pour se restaurer. Et puis ensuite, vous arrivez au pied du grand escalier. Et là, tout de suite, si vous levez la tête, bien sûr, vous avez toujours cette grande falaise au-dessus de vous. Et accroché à la falaise, vous avez donc le sanctuaire qu'il va falloir acquérir, si je puis dire, en montant les marches.
Alors
Comme me disait Stéphane Bern tout à l'heure, il faut monter.
on va y venir. Donc après ces 216 marches, ce grand escalier qui mène au sanctuaire, est-ce qu'on peut dire que Rocamadour, ça a des airs de quelque part de Mont-Saint-Michel, c'est-à-dire une enfilade, on va dire, de petites maisons qui mènent après vers un sanctuaire qui est entre terre et ciel. Ça a des airs de Mont-Saint-Michel, là où vous êtes?
Alors, d'une certaine manière, oui, puisqu'il y a des choses en hauteur, mais ici, voilà, il n'y a qu'une rue qui suit la vallée, en fait. Il n'y a, parce qu'on n'est pas dans un lieu circulaire comme une île, donc il n'y a qu'une rue qui suit la vallée. Et donc, si vous suivez cette rue, soit vous allez d'un côté de la vallée, soit vous allez de l'autre côté de la vallée, mais pour aller au sanctuaire, il va falloir la quitter et il va falloir monter. Et donc, du coup, effectivement, ce petit village qui est parsemé de portes moyenâgeuses qui étaient là pour voilà, protéger la ville, d'une certaine manière peut ressembler à beaucoup beaucoup de nos villages moyenâgeux, comme je pense dans notre belle Occitanie, Corde ou d'autres lieux encore.
Florent Millet, avant qu'on grimpe les escaliers avec vous, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu le guide que vous êtes, être recteur d'un sanctuaire comme ce haut lieu spirituel, ce deuxième grand poumon spirituel de notre région, après Lourdes, ce n'est pas rien. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur l'homme que vous êtes? Vous êtes donc prêtre du diocèse de Cahors. Voilà, pour
Oui.
ceux qui n'ont jamais vu votre visage, vous avez une belle barbe fournie. Vous avez été vicaire général de ce diocèse. Présentez-vous en
Et
quelques
je le suis
mots,
encore, oui.
que vous êtes encore, pardon. Présentez-vous
Voilà.
en quelques mots, qui est ce guide qui nous prend par la main?
Eh bien, voilà, donc ça fait 2 ans et demi maintenant que je suis sur le sanctuaire. Et donc, j'essaie de faire découvrir aux gens un petit peu le cœur du message, puisque moi je suis né dans le Lot, je connais le Lot et je connais le sanctuaire depuis bien longtemps. Mais c'est vrai que y être comme recteur, ça change tout, parce que d'un seul coup, vous n'êtes plus quelqu'un qui vient pour une occasion, pour une célébration, pour voilà, un temps de prière, etc. D'un seul coup, vous devenez un petit peu le gardien des lieux, et donc ça change tout, parce que ben on a un regard complètement différent voilà, sur ce sanctuaire. Il faut qu'il soit entretenu, il faut qu'il soit habité, il faut que les gens qui viennent là puissent sentir que, eh bien, voilà, il y a une présence qui les attend, et on doit justement les conduire vers cette présence, la Vierge Marie, le bon Dieu, hein, et donc c'est pas une petite affaire. Et je découvre tous les jours un petit peu cette belle mission, parce que heureusement, il y a toute une équipe qui est là sur le sanctuaire et qui me permet de mieux saisir un petit peu tout ce qui se vit ici, tout ce qui s'est vécu avant que j'arrive. Et ensemble, nous essayons bien sûr de continuer de faire
Alors,
vivre de beaux projets à toutes les personnes qui vont venir.
vous êtes donc un peu ce gardien de phare. Alors, montons dans le phare. Donc, on grimpe ce grand escalier. On lâche la main de Stéphane Bern et on prend la vôtre. Peut-être vous n'allez pas tout nous décrire. Disons que on grimpe l'escalier et on va directement au cœur de ce sanctuaire. À quoi ressemble cette ascension et que voit-on dans cette belle chapelle?
Alors, d'abord, nous gravissons 216 marches, hein, on monte, et puis on arrive effectivement, comme vous le dites, dans la chapelle Notre-Dame. Alors, c'est une chapelle qui a été reconstruite au XIVe siècle, puisqu'elle avait été, à la fin du XIVe siècle, parce qu'elle avait été détruite par un rocher qui s'était décroché de la falaise. Comme tous les jours, il y a des rochers qui tombent, mais bon, on espère qu'il ne soit pas trop gros. Et là, il avait écrasé complètement la falaise. Donc, on est dans une espèce de chapelle gothique flamboyant, qui a été restaurée au XIXe siècle, dans le style... de l'abbé Cheval, qui était un disciple de ce grand architecte du 19e, qui refaisait tous les sanctuaires et tous les lieux moyenâgeux, avec des créneaux un petit peu partout. Et voilà, donc nous sommes dans cette chapelle. C'est un lieu qui est à moitié sous le rocher, puisque on est dans un abri sous roche. Et là, bien sûr, trône au-dessus de l'autel, un autel qui est en bronze doré, daté de 1889, qui avait été fait à l'occasion de l'exposition universelle, qui représente un certain nombre de personnages qui sont passés à Rocamadour, en particulier Roland de Roncevaux, en particulier Saint-Dominique, et puis, bien sûr, qui reprend la légende de Zachée, qui reprend une autre légende aussi, avec Saint-Martial. Et en haut de cet hôtel, dans un écrin de lumière, eh bien, il y a bien sûr la Vierge Noire, cette statue en bois, datée actuellement du XIIe siècle. En tout cas, c'est celle qui a été mise au XIIe siècle, puisqu'avant, il y en avait une autre qu'on a encore dans le musée.
Alors, cette Vierge Noire, si j'ai bien compris, qui n'a pas toujours été noire, contrairement à l'idée qu'on s'en fait?
Alors, effectivement, les scientifiques eux-mêmes ne savent pas exactement pourquoi elle est noire. Certains nous disent, bon, ça a été noirci par la fumée des cierges. D'autres nous disent parce qu'elle est noyée, ce qui est vrai, le noyer en vieillissant devient noir. D'autres nous disent parce qu'elle était recouverte de plaques d'argent et l'argent en s'oxydant devient noir. D'autres nous disent, avant elle était polychrome, voilà. Alors, on a un petit peu toutes les théories, et comme nous ne sommes pas scientifiques, on explique les théories, mais on ne donne pas de réponse, puisqu'il n'y a pas beaucoup de sanctuaires en France où il y a des vierges noires qui puissent dire pourquoi est-ce qu'elle est noire. Et donc, du coup, voilà, on est obligé d'admirer, si je puis dire, cette belle vierge qui est assise sur un trône, et qui est à l'enfant Jésus, assis sur son genou gauche, et voilà, qui est prête à nous accueillir. La Vierge Marie, on aime bien dire à Rocamadour, elle a Jésus sur son genou gauche pour pouvoir nous accueillir sur son genou droit, et voilà, nous permettre de devenir petit à petit son enfant, mais aussi de pouvoir prendre Jésus par la main comme un grand frère, pour qu'il puisse nous guider jusqu'au salut, puisque c'est lui l'unique sauveur. Et donc, du coup, Marie nous invite à le prendre comme un modèle, un exemple et un grand frère.
Voilà, vous n'êtes pas un gardien de phare comme les autres, puisque quand vous nous emmenez en haut du phare, pour vous, en fait, cette Vierge n'est pas qu'une statue, c'est ce qu'on entend. On s'habitue un peu à l'antenne à avoir des hommes de foi comme ça, mais voilà, vous n'êtes pas un guide touristique comme les autres. Combien y a-t-il de personnes qui passent au sanctuaire de Rocamadour? J'ai vu que quand la saison bat son plein et qu'on n'est pas en situation de crise sanitaire comme en ce moment, c'est à peu près 5000 personnes quand même qui gravissent plus ou moins l'escalier pendant l'été, par
alors,
jour
Oui, alors là, j'aurais beaucoup, beaucoup de mal à vous dire parce que c'est très, très variable. On a eu cette année une fréquence à peu près égale aux années précédentes entre le 15 juillet et le 15 août. Mais là, pour le coup, c'était quasiment que des Français, alors que d'habitude, on a au moins 40% de personnes qui viennent d'autres pays, d'étrangers. Là, c'était 98% des Français. Donc là, ça a été bien d'une certaine manière parce que les Français se sont réappropriés les lieux. L'Office du tourisme nous dit qu'il y a entre 1 800 000 et 2 millions de personnes qui passent chaque année. Alors bien sûr, il faut bien se dire que les gens passent particulièrement entre fin mars et fin octobre. Là, on va bientôt finir la saison. Après les fêtes de Toussaint, ça va être le calme à nouveau jusqu'à ce qu'on arrive à la période des rameaux. Mais c'est vrai que donc on a beaucoup beaucoup de personnes sur un temps très concentré. Alors, vous dire exactement combien chaque jour, je
c'est
sais
pas
que
grave.
Dans l'été, on donne des verres d'eau. Donc, ça, pour nous, c'est un bon guide. Chaque été, on donne des verres d'eau, on distribue des verres d'eau sur les parvis. Et rien que pendant la journée, entre début juillet et fin août, on distribue 90 000 verres d'eau. Ça, comme on les achète, on le sait. Vous voyez.
90 000 verres d'eau, c'est un beau signe.
Voilà, qui sont offerts, ça veut dire qu'on a un contact avec 90 000 personnes. Parce que le but d'offrir un verre d'eau, c'est aussi d'accueillir, c'est aussi de dire un mot, c'est aussi de guider les gens, c'est aussi voilà, de leur permettre de sentir que voilà, c'est un lieu où ils vont être les bienvenus. Quoi. Donc ça donne une petite idée, vous voyez, sur 60 jours à peu près.
On va faire une première pause et puis on va vous retrouver pour voyager, on va dire, dans l'histoire sainte de ce lieu et puis sa pastorale d'hier et d'aujourd'hui, même si vous n'êtes là que depuis 2 ans, c'est un lieu évidemment qui a aussi une mémoire pastorale. On parlera de Saint-Amadour, du fameux livre des miracles, de ce lieu de conversion, entre autres de la conversion du grand compositeur français Francis Poulenc, qui sorte de conversion à la Claudel en ce lieu, et du lieu d'évangélisation qu'il est encore aujourd'hui, puisque vous accueillez de nombreux jeunes, notamment l'été, qui essayent d'être des guides comme vous, d'un genre bien particulier. Site exceptionnel d'Occitanie, Cap sur Rocamadour. C'est donc, pour rappel, le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Cette deuxième émission d'une série à laquelle on va s'essayer. On part à la rencontre de certains lieux, un mélange de tourisme, d'histoire sainte et de rencontres et de portraits. Ce matin, nous sommes avec Florent Millet, qui est prêtre du diocèse de Cahors, recteur du sanctuaire Notre-Dame de Rocamadour, qui nous sert de guide. Et notre témoin du jour, ce sera vous, Marie-France, vous êtes religieuse de Notre-Dame du Calvaire en service au sanctuaire de Rocamadour. Après cette introduction touristique, merci de nous avoir pris par la main, le mieux étant évidemment de s'y rendre, même hors saison, pour découvrir ce lieu magnifique et ce que vous nous avez décrit et proposé. Si l'on parle de l'histoire sainte de ce lieu, vous avez parlé de la légende de Zachée, il y a les fameuses reliques de Amadour, puisque en occitan, si j'ai bien compris, Roque Amadour, c'est Roque Amadori. Alors, qui sont ces saints à l'origine de ce lieu, semble-t-il, et qui est ce fameux saint Amadour, Flambier ?
Alors, il se trouve que le sanctuaire de Roque Amadour est attesté depuis le 5e siècle. Et donc déjà, la chrétienté va venir ici, sur le sanctuaire, en foule, hein, puisque lorsque Roland de Francevaux, au 8e siècle, va partir dans les Pyrénées, envoyé par son oncle Charlemagne, eh bien, il va venir ici à Roque Amadour pour y consacrer son épée, et puis ensuite, voilà, il va continuer sa route. Ici, donc, de nombreux chrétiens vont venir, et c'est une communauté de moines qui s'occupe d'accueillir les pèlerins. Ce sont d'abord des moines originaires de Marcillac sur Célé, et puis ensuite ça va être l'abbaye des bénédictins de Tulle, de Saint-Martin de Tulle, qui vont venir s'occuper du sanctuaire. À ce moment-là, Géraud d'Escorail, qui est père abbé, va vouloir, on est au XIIe siècle, construire un sanctuaire digne de ce nom, parce que jusque-là, on avait une toute petite chapelle. Ils construisent le sanctuaire, et un des donateurs du village va dire « Lorsque je vais mourir, je veux être enterré le plus proche possible de la Vierge Noire, de la statue de la Vierge Noire. » Et voilà que cet homme meurt, et les moines s'exécutent, ils commencent à creuser, et là, ils découvrent quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu jusque-là, une espèce de plaque mortuaire, ils la lèvent, et ils découvrent le corps parfaitement intact d'un homme. Il n'y a rien pour dire qui il est. La seule chose que les moines vont écrire dans leur livre, c'est « on aurait dit qu'il dormait ».
C'est donc on est donc au XIIe siècle, c'est ça, hein ?
Oui, en 1166, exactement. À ce moment-là, le sanctuaire n'est pas encore fini d'être construit, donc ils vont prendre le corps de cet homme et ils vont le mettre à la vénération des fidèles dans la crypte, qui est une des seules églises qui est finie, puisqu'ils sont en train de construire la basilique à ce moment-là. Et donc, du coup, pendant plus de 400 ans, hein, jusqu'à ce que les Huguenots le détruisent, ce corps va être là, à la vénération des fidèles, et il va attirer une foule immense. À ce moment-là, on ne vit rien. On ne sait rien de cet homme, on ne sait pas qui il est.
Florent Millet, est-ce à dire que pendant 4 siècles, l'histoire, on va dire, la mémoire de ce lieu ou les quelques archives que vous avez laisse entendre que ce corps intact a été exposé pendant 400 ans comme ça aux fidèles ?
Tout à fait, exactement. Il a été mis à la vénération des fidèles, comme aujourd'hui nous pourrions avoir le curé d'Ars ou Sainte Bernadette ou d'autres saints qui ont leur corps parfaitement intact. Et donc c'est ce qui va se passer ici à Roque Amadour, en fait, oui, effectivement.
Donc on ne sait pas qui c'est. Alors pourquoi est-ce qu'on l'appelle aujourd'hui Saint Amadour, ou on parle de Zachée ? Alors, on a essayé de reconstruire l'histoire.
Voilà, en fait, Amadour, c'est l'amoureux de Dieu. Et donc, du coup, ici, Roque Amadour, c'est le rocher de l'amoureux de Dieu, vous comprenez, hein. Et donc, du coup, eh bien, tout de suite, quelques siècles plus tard, les troubadours aidant, on veut savoir qui est cet homme, n'est-ce pas? Parce que toutes ces foules qui viennent, on l'appelle l'Amadour, bien sûr, on doit aller le voir, mais on ne sait pas qui c'est. Et donc, du coup, comme je disais, les troubadours aidant, il va y avoir toute une légende qui va se monter, et même plusieurs légendes qui vont se monter. La légende qui, aujourd'hui, fait le plus, non pas l'unanimité, mais dont on parle le plus, c'est celle de Zachée. Puisque, comme on ne sait rien de cet homme, vous voyez, Zachée, lui, dans l'évangile, est un homme de petite taille. Il se trouve que notre cher homme, Amadour, est de petite taille. On se dit, alors si cet homme de petite taille pouvait être Zachée, ça serait bien. Hein, Zachée, on se rappelle, il monte sur un sycomore pour voir Jésus qui passe, et puis Jésus va s'inviter chez lui, et puis il va se convertir, et puis il va donner la moitié de ses biens aux pauvres, il va donner 4 fois plus à ceux qu'il a volés, puisqu'à l'époque, il était collecteur d'impôts pour les occupants, hein, pour les Romains. Et voilà qu'à partir de là, une fois que Zachée s'est converti, on ne sait plus rien. Alors, entre quelqu'un dont on ne sait plus rien et un homme qu'on a trouvé et dont on ne sait rien, peut-être que ce fait de rien sont identiques, n'est-ce pas ? Et voilà que la légende s'est épartie. Alors voilà que notre cher Zachée va s'amouracher de Sainte Véronique, vous savez, celle qui essuie le visage de Jésus. Ils vont partir en voyage de noces, faire le tour de la Méditerranée, le tour de la péninsule ibérique, ils vont remonter la Gironde, la Dordogne, là Véronique va mourir. Et puis Zachée va continuer sa route, il va remonter encore la Dordogne, remonter l'Ouïs, l'Alzou, arriver en bas de Roque Amadour. se faire ermite dans cet abri sous roche, et puis tailler la statue de la Vierge Noire, et puis mourir. Voilà. Donc, alors, vous voyez comment la légende s'est faite.
Florent Millet, au-delà de fait de la légende, donc, et de cette, semble-t-il, en tout cas pour cette vérité, qui est donc la présence de ce corps qu'on imagine être celui d'un saint, retrouvé intact donc, au XIIe siècle et exposé à la vénération des fidèles pendant 4 siècles, Rocamadour est décrit donc, par l'histoire, puisqu'on en est à faire un peu d'histoire, comme un lieu de miracles, passé et présent. Il y a donc un livre des miracles, si je ne me trompe pas, qui date aussi du XIIe siècle. Ces miracles, ce sont la plupart du temps, en tout cas, ce n'est pas le guide, le gardien de phare que vous êtes de ce lieu qui dira le contraire, sont la plupart du temps des conversions. Qu'est-ce qu'on peut dire des conversions d'hier et d'aujourd'hui ? Il y a de nombreuses grandes figures et de nombreuses belles histoires de conversions en ce lieu.
Tout à fait. Alors, le livre des miracles raconte surtout des miracles liés à la mer, mais aussi d'autres liés à des choses qui sont passées dans la chapelle. Alors, soit par rapport à des conversions, soit par rapport à des guérisons assez extraordinaires, merveilleuses, voilà. Vous parlez de conversions, alors bien sûr, on pourrait en citer des tas, mais il y en a une qui est survenue ici même en 1936, le 22 août 1936, et ça, pour le coup, c'est la conversion de Francis Poulenc. Hein, il venait quelques
Francis
jours
Poulenc, donc grand compositeur français, je précise.
Voilà, grand compositeur de musique français. Et il venait de perdre quelques jours avant un grand ami qui était mort d'un accident de voiture. Et il en était très, très affecté. 5 jours après, il vient à Rocamadour. Et on peut imaginer qu'il a poussé un cri vers la Vierge Marie. Pourquoi cet ami, etc. Lui aussi, il était un grand compositeur. Et voilà que notre cher Francis Poulenc, à l'âge de 37 ans, hein, va dire lui-même hein, qu'il vit un choc, une révélation spirituelle, hein, qui va d'ailleurs influencer durablement toute sa musique, puisque jusque-là, il ne faisait que des musiques qui n'avaient pas de dimension sacrée, et à partir de là, eh bien, le jour même d'ailleurs, il va écrire pendant 7 jours durant les litanies de la Vierge Noire. Ça va être sa première œuvre sacrée, et ensuite il va y en avoir tout un grand nombre ensuite. Donc voilà.
C'est un peu votre Claudel du lieu, comme ce grand écrivain qui s'est converti à Notre-Dame derrière un pilier de Notre-Dame de Paris.
Exactement, c'est un homme qui voilà va vraiment découvrir combien il est aimé du bon Dieu, combien il est aimé de la Sainte Vierge Marie, et puis qui va revenir d'ailleurs de nombreuses fois ici à Rocamadour. Ça va devenir son lieu de son poumon spirituel, son lieu de ressourcement, et le lieu où il va pouvoir aussi trouver ses inspirations pour son écriture musicale. Et donc aujourd'hui, c'est pour cela que on aime le mettre à l'honneur. En particulier, il y a tout un musée ici sur le sanctuaire qui retrace toute l'histoire du sanctuaire, et on l'a pris comme parrain de ce musée, hein, c'est le musée Francis Poulenc du coup, pour voilà, montrer que le bon Dieu est encore à l'œuvre aujourd'hui, et bon, il y a ces grands noms bien sûr, et heureusement il y a tous les jours des tas de personnes qui, suite à des visites du sanctuaire que l'on fait, qui découvrent combien ils sont aimés de Dieu, qui découvrent combien, voilà.
Alors on va y venir, je vous propose, on va écouter un autre extrait sonore. J'ai retrouvé un article du journal La Croix, daté de l'été 2019, à Rocamadour, mission évangélisation. C'est donc aussi un lieu qui est connu, on va dire, pour ceux qui connaissent un petit peu la vie de l'Église, parce que de nombreux jeunes viennent l'été vous prêter main forte. Je vous propose qu'on écoute deux d'entre eux. C'est une vidéo que vous mettez à disposition sur Internet, qui se lance donc pendant l'été, qui nous explique donc pourquoi ils viennent ici rendre service pendant cet été, avec comme t-shirt et comme devise « L'espérance ferme comme le roc ».
Je m'appelle Laetitia, j'ai 21 ans et je fais mes études à Lille. J'ai marché sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle pendant une semaine juste avant de venir à Rocamadour. Et en fait, on a fait Conques, Rocamadour, Cahors, en passant par le petit chemin. Et je ne connaissais pas Rocamadour avant. Et en arrivant ici, je me suis dit qu'il fallait que je revienne. Et en fait, à ce moment-là, il y a des amis de mon groupe qui m'ont dit « Eh bien, nous, on y va juste après en tant que bénévole, donc viens avec nous ». Et ce que j'aime particulièrement ici, c'est le fait que j'aime beaucoup le fait qu'on vive une vie de communauté entre bénévoles, c'est-à-dire qu'on est vraiment un groupe et on se sent vraiment impliqué, c'est-à-dire que c'est nous qui faisons vivre le sanctuaire.
Je m'appelle Priscille, j'ai 21 ans et c'est le deuxième été que je suis bénévole au sanctuaire. Et ce qui est sympa dans le bénévolat, c'est que en fait, il y a plusieurs aspects de la foi qui sont mis en avant. Donc il y a tout d'abord l'esprit de service. Donc, c'est-à-dire qu'on est là pour accueillir les pèlerins ou les touristes, pour les guider. Mais à la fois, il y a aussi un esprit fraternel parce qu'on rencontre d'autres jeunes, souvent des étudiants ou alors des jeunes professionnels qui sont là aussi finalement au nom du Christ. Donc c'est bien de voir d'autres jeunes cathos. Ce qui est chouette, c'est que dans les services qui nous sont demandés, il y a des services quand même qui sont pour nous. On a une intense vie de prière quand on est ici. Et donc à la fois on rend service, mais à la fois c'est aussi du temps pour nous. On a des enseignements avec des prêtres qui nous accompagnent. On a la possibilité de se confesser, d'assister à tous les offices. Donc finalement, c'est hyper complet. Et du coup, faire ça pendant 8 jours, ça donne un peu de sens à notre été.
Voilà, très heureux donc d'avoir grâce à vous pu rendre présent d'autres témoins à l'occasion de cette émission. Quand le journal La Croix titre à Rocamadour mission évangélisation, Florent Millet, qu'est-ce que ça signifie ?
Eh bien, ça signifie que depuis de nombreuses années, bien avant que j'arrive d'ailleurs, il a été mis en place tout un système pour pouvoir accueillir les pèlerins et les touristes, parce que ici il y a quand même 98% des personnes qui viennent qui sont touristes, même dans ces 98%, il y en a au moins 60% ou 50% qui ne savent même pas qu'ils viennent d'un lieu religieux. Et donc du coup, voyez, face à la mission dont je parlais tout à l'heure, d'annoncer Jésus, de faire découvrir la Vierge Marie, eh bien on est face à une montagne qui nous semble insurmontable. Et donc voilà que le recteur, il y a quelques années, le père Ronan, avait eu l'idée de se dire il faudrait permettre à des jeunes de venir aider pour accueillir ce que les gens comme cela, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé du verre d'eau que nous offrons, mais aussi en pouvant proposer des visites guidées, mais aussi en pouvant animer les liturgies, mais aussi ne serait-ce que tout l'entretien du sanctuaire. Chaque jour, il faut balayer toutes les 8 chapelles, et il faut nettoyer les parvis, il faut nettoyer les escaliers, il faut que tout soit accueillant. Vous voyez, c'est une
rude tâche
chaque été.
C'est une rude tâche. Alors, de fait, quand on se penche dans cet article, on lit Thomas, séminariste, 21 ans, qui, pour sa 6e année, vient ici pour des visites guidées. Et il dit « Lors d'une visite, je faisais deviner les 7 sacrements. Des personnes m'ont dit qu'elles ne voulaient pas assister à un cours de catéchisme et sont parties. » On imagine que la tâche n'est pas facile. Qu'est-ce que vous leur dites à tous ces jeunes qui viennent se donner avec générosité, avec cette devise au cœur et sur leur t-shirt, l'espérance ferme comme le roc. Comment est-ce qu'on accompagne les touristes sans être maladroit ?
Alors, la devise, déjà, c'est celle du sanctuaire. Hein. C'est pour cela qu'on l'a mis sur les t-shirts. Et alors, comment ne pas choquer les touristes ? Eh bien, d'abord, premièrement, on les accueille, vous voyez, avec quelque chose, avec un sourire, et on leur dit « bienvenue ». Ça, c'est la première chose. On n'est pas là pour essayer de les récupérer, on n'est pas là pour essayer de les convertir, on n'est pas là pour... Voilà, nous, on est là pour annoncer quelque chose qui nous tient à cœur. Et à partir de là, les gens veulent venir, ils suivent, ils ne veulent pas venir, ils ne suivent pas. Ça, il n'y a aucun problème de ce côté-là, mais ils sont dans un lieu saint et nous, on les accueille et on leur annonce la bonne nouvelle. C'est-à-dire, par exemple, comme je dis aux jeunes, vous êtes là pour évangéliser. Ça veut dire quoi, évangéliser ? C'est sourire et dire bonjour aux gens. Après, si vous posez une question, eh bien voilà, ça veut dire que le Seigneur ouvre leur cœur pour pouvoir continuer. Et puis, ça va durer 5 minutes, ça va durer 2 minutes, ça va pas durer du tout, c'est pas grave. Mais vous voyez, le but, ce n'est pas d'arriver avec un catéchisme ou une doctrine ou quoi que ce soit. C'est d'abord d'arriver avec permettre que les gens se sentent bien, heureux et accueillis. Après, s'ils nous parlent, effectivement, alors on peut développer des choses. Et puis souvent, on dit aux jeunes, allez, au bout d'un quart d'heure, quand vous discutez avec quelqu'un, ça n'est plus de votre ressort. Après, envoyez-les voir un prêtre pour pouvoir se confesser ou pour pouvoir discuter plus profondément ou proposez-leur aussi de faire des visites. Alors les visites, pour le coup, comme vous l'avez dit, hein, elles sont faites par les séminaristes. Et notre but, ce n'est pas de parler des cailloux, ce n'est pas de parler de l'architecture, etc., même si on en parle. Mais notre but, c'est de dire pourquoi il y a ce caillou-là ? Pourquoi il y a cette architecture ? Pour qui tout cela a été fait ? comme je dis toujours aux séminaristes, à la fin de votre visite, les gens ne doivent pas se dire « Waouh, comme le sanctuaire est beau !» Ils doivent se dire « Waouh, comme Dieu est grand !» C'est ça mon but.
Comme Dieu est grand.
Autant être un gentil animateur, et j'ai rien contre eux, mais voilà, pour faire de l'animation. Ce n'est pas mon but. Moi, je suis là pour transmettre Jésus et l'amour que j'ai de Jésus, et que chaque jeune puisse en faire autant. Et je peux vous dire, je suis toujours émerveillé. Chaque soir, on a une heure, voire une heure et demie de relecture de la journée, où on dit les joies, les difficultés, les intentions de prière que les gens nous ont confiées, etc. Et on prie pour ces gens-là. Mais c'est toujours quelque chose de merveilleux, merveilleux de voir toutes les belles choses qui sont, les cœurs qui sont ouverts, tout simplement parce qu'on a fait un grand sourire. Alors même si avec le masque de nos jours, ça se voit pas beaucoup, mais on le voit dans les yeux, ce qui paraît quand même. Hein. Ce qui fait que voilà, c'est ça qui est le principal.
Ce sanctuaire donc qui accueille, pour rappel, donc plus d'1,5 million de visiteurs par an, et cette Vierge Noire qui, on va dire, est une Vierge qui rayonne bien au-delà de ce sanctuaire. Pour rappel, je le disais ce matin dans le teasing, la Vierge Noire maintenant s'invite aussi au Vendée Globe, puisque c'est une Vierge qui protège particulièrement les marins, dit la tradition, et qui a rendez-vous encore cette année à l'occasion du Vendée Globe qui commencera le 8 novembre prochain. Sauf nouvelle annonce peut-être due à cette crise sanitaire. On va faire une deuxième pause et puis on va vous découvrir. Marie-France, vous avez été discrète et c'est une de vos qualités. Vous êtes religieuse de Notre-Dame du Calvaire. Vous avez été choisie comme le témoin du jour. Voilà, vous êtes au service dans ce sanctuaire de Rocamadour. On va faire connaissance avec vous, avec votre histoire et celle que vous avez avec ce lieu. Et puis vous nous donnerez quelques clés pour essayer de nous adresser à la Vierge quand on aura gravi les marches de ce beau sanctuaire.
Radio Présence dans la vallée de la Garonne, 97.9. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Site exceptionnel d'Occitanie, Cap sur Rocamadour, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour ceux qui nous rejoindraient, nous sommes avec Florent Millet, qui est prêtre du diocèse de Cahors, recteur de ce sanctuaire Notre-Dame de Rocamadour, et Marie-France, religieuse de Notre-Dame du Calvaire en service au sanctuaire de Rocamadour. Alors vous êtes notre témoin de ce jour, lorsqu'on est allé sur le Causse-Méjean en Lozère, c'était un couple d'éleveurs qui avait accompagné l'évêque de Mende à l'occasion de l'assemblée plénière des évêques sur Laudato Si. Bref, on les avait découverts, ce couple courageux sur les Causses, à la tête d'un élevage bio. Aujourd'hui, c'est donc vous, sœur Marie-France, est donc religieuse de Notre-Dame du Calvaire. Ce sont des religieuses du pays. Et alors, vous avez une histoire bien singulière. Peut-être faut-il commencer par là. Vous êtes donc du diocèse de Cahors. Et un jour, vous avez, comme tout le monde, gravi les marches de ce sanctuaire. Ça n'était pas la première fois. Mais pour aller présenter une prière à la Vierge de Rocamadour, est-ce que vous pouvez nous raconter cet épisode important dans votre vie ?
Le sanctuaire de Rocamadour est un lieu spirituel où j'ai l'habitude d'aller depuis mon enfance. C'est donc tout naturellement que j'ai été prier la Vierge Marie, lorsqu'il m'a fallu faire un choix professionnel. Ma demande était claire. Est-ce que j'allais travailler comme infirmière ou faire encore une année d'études pour obtenir mon diplôme d'assistante sociale, car je venais d'échouer à l'examen de sortie de l'école.
Alors, sœur Marie-France, je vous arrête tout de suite. Je sais que vous étiez intimidée par cet exercice, mais il ne faut pas lire vos notes. Vous êtes en direct et vous me parlez à moi. Vous posez donc vos notes sur le côté et vous me répondez avec votre cœur. Vous alliez donc au sanctuaire pour présenter à la Vierge une interrogation profonde. Vous demandiez ce que vous alliez faire comme étude. Et puis, alors que vous présentiez cette question, en fait, la réponse a été assez différente. Racontez-nous, s'il vous plaît, mais en me parlant à moi et sans lire.
Oui. Je priais donc sous le regard de Notre-Dame lorsque j'ai perçu cet appel dans mon cœur « Et si tu venais ?» J'ai compris alors que le Seigneur me demandait de le suivre dans la vie religieuse. Je suis sortie de la chapelle avec cette certitude, fortifiée par la rencontre avec le Seigneur, à la fois douce et lumineuse.
Alors, je vous en prie, ça va être compliqué, sinon on va être obligé d'arrêter l'émission. Sœur Marie-France, vous ne pouvez pas lire vos notes, vous devez me parler à moi. Donc, on entend que vous étiez donc dans ce sanctuaire, et puis alors que vous veniez poser des questions donc, sur votre orientation professionnelle, vous avez donc senti un appel du Seigneur à vous consacrer. Alors, tout simplement, vous vous êtes tourné vers les religieuses de Notre-Dame du Calvaire, qui est une congrégation locale, fondée par un certain Pierre Bonhomme, donc au XIXe siècle, congrégation pour s'occuper des malades à domicile, des œuvres paroissiales et de l'instruction. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cette congrégation à laquelle vous appartenez et pourquoi est-ce que vous avez choisi de rentrer dans cette congrégation religieuse ?
Oui, cette congrégation est née en 1833 et elle a été fondée par le père Bonhomme, qui était le curé de Gramat de l'époque. Il voulait des sœurs pour aller visiter les malades sur Gramat, parce qu'il avait vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient indigentes et vivaient dans de mauvaises conditions. Je suis allée vers cette congrégation parce que lorsque j'ai lu la BD sur le père Bonhomme, il m'a semblé qu'il répondait exactement aux besoins de son temps. Et comme je vivais pas loin de Gramat, j'ai été naturellement vers ces sœurs-là.
Alors, Florent Millet, dites-nous pourquoi, au risque de la faire rougir, vous avez choisi sœur Marie-France, donc religieuse de Notre-Dame du Calvaire. Quand on entend, ne serait-ce que ces deux parties de sa vie importantes, cet appel qu'elle a reçu à Rocamadour, et puis cette manière toute simple qu'elle a eue de se mettre au service dans le pays, on entend quelque chose aussi d'important à propos de Rocamadour, c'est qu'au-delà du merveilleux ou de l'extraordinaire du lieu, c'est un lieu, on va dire, où pour entendre Dieu, il faut peut-être avoir la simplicité de sœur Marie-France. Dites-nous pourquoi vous l'avez choisi.
Alors, notre sœur Marie-France, qui peut-être est un peu timide, mais pas tant que ça en fait. Mais en fait, c'est une sœur qui vient de fêter ses 50 ans de vie religieuse et qui est un témoignage extraordinaire sur le sanctuaire, en particulier auprès des jeunes, tous ces bénévoles dont on a parlé tout à l'heure, qui a une présence auprès d'eux merveilleuse, parce que elle, tout simplement par sa vie de foi, par son amour de la Sainte Vierge, son amour du bon Dieu, et puis par sa présence, vous savez, elle est là du matin au soir au sanctuaire, elle passe son temps à prier les chapelets, elle est là pour préparer les messes des différents prêtres qui passent, ou des différents groupes, etc. Et donc du coup, c'est une personne incontournable. Quand vous venez à Rocamadour, inévitablement, vous la croisez, soit dans la basilique, soit dans la sacristie, soit dans la chapelle Notre-Dame, ou la crypte encore. Voilà, c'est un petit peu...
Ça fait partie des âmes de ce lieu. Sœur Marie-France, vous êtes donc vous êtes responsable de la sacristie, vous, on va dire, soutenez et participez donc aux offices qui sont proposés en ce lieu. On entend donc qu'il y a de nombreuses personnes qui passent, que la tâche n'est pas facile pour les emmener ces touristes à Dieu. Est-ce que vous avez quelques exemples de rencontres comme ça, où vous vous êtes dit, tiens, là, il s'est passé quelque chose, est-ce qu'il vous le revient en mémoire des visages?
Oui, lorsque j'inscris les personnes pour une demande de messe, il arrive que on me raconte un peu l'histoire de la famille, et quelquefois ça remet en question certaines personnes sur leur façon de vivre ou d'avoir vécu en couple ou auprès des enfants et les conséquences que ça a pu avoir dans la famille. Mais surtout en ce moment, c'est les personnes bénévoles qui accueillent sur le parvis et qui reçoivent des gens qui, par exemple, dernièrement, il y a une dame qui était terrorisée par le fait d'aller jusque dans la chapelle parce qu'elle sentait qu'il y avait beaucoup d'énergie dans cette chapelle et elle n'osait pas rentrer. Et elle était au bord du malaise et la bénévole l'a écoutée, lui a donné un verre d'eau. Et quand elle a eu repris sa respiration, elles sont montées pas à pas vers la chapelle. Elle est restée quelques instants avec elle et puis elle l'a laissée avec la Vierge Marie. Et un moment après, elle est revenue la remercier, bouleversée dans son cœur de ce qui s'était passé.
Alors est-ce que vous pouvez raconter une rencontre que vous avez faite vous-même et pas forcément celle qu'a fait un bénévole? On imagine que vous en avez croisé des personnes. Est-ce qu'une fois vous êtes sorti d'une rencontre en vous disant, tiens là, Dieu a agi et cette personne, elle va rentrer dans la chapelle en se disant que peut-être qu'il y a plus qu'une statue?
Oui, moi je pense que j'ai pas directement eu de l'impression que les gens, après m'avoir rencontré, allaient plus particulièrement vers la Vierge, mais quand je pense à cette dame qui était dans le livre des miracles, il y a de très beaux passages où on voit des conversions intérieures, des gens qui arrivent incroyants et qui, devant la Vierge, ressortent convertis. Telle cette dame qui était allée faire le tour du monde avec son fiancé et qui a été sauvée d'un naufrage et en venant remercier, elle demande à la Vierge, mais pourquoi avez-vous fait ça pour moi alors que je suis incroyante? Et la Vierge lui répond, parce que je t'aime. Donc je crois que ça nous dépasse. Ça dépasse la relation interpersonnelle. On découvre chez les autres ce qui se passe. Nous, on ne sait pas trop ce qu'on a
semé. Qu'est-ce que vous diriez pour finir et qu'est-ce que vous répondez aux pèlerins quand ils s'adressent à vous? Peut-être est-ce une question qu'ils vous posent de temps en temps ou vous essayez de les guider. Pour ceux qui sont, on va dire, des catholiques moyennement pratiquants ou peu pratiquants, qui dans le fond aimeraient croire mais hésitent et qui ne savent pas comment s'adresser à la Vierge Marie et à cette Vierge Noire en haut du sanctuaire de Rocamadour, quel conseil leur donneriez-vous ou leur donnez-vous pour s'adresser à la Vierge Marie?
Moi, j'en veux pour preuve le cahier qui est au fond de la chapelle, où les gens mettent vraiment tout ce qu'ils ont sur le cœur, la demande d'une guérison, la demande d'un enfant. C'est ça, s'adresser à la Vierge Marie comme à une maman, puisque le Seigneur nous l'a donnée comme mère au pied de la croix, et elle intercède pour nous tous les jours, elle est toujours vivante auprès de lui. Donc, la meilleure façon de la prier, c'est de la prier avec son cœur, comme on parlerait à une maman, tout simplement de tout ce qui peut nous intéresser ou nous inquiéter. Maintenant, il y a aussi le Je vous salue Marie, hein, ou le chapelet, qui est une grande aide pour connaître la vie de la Vierge Marie. Et je dois avouer que le rosaire m'aide beaucoup dans ma vie religieuse. Voilà.
Eh ben merci beaucoup de nous avoir pris par la main et de nous avoir servi de guide, on va dire, spirituel en cette fin d'émission pour essayer de nous aider à entrer dans cette relation vivante avec la Vierge Noire de Rocamadour. Rocamadour, donc, ce site exceptionnel d'Occitanie à découvrir et à redécouvrir, même en saison basse, vous serez bien accueillis et peut-être encore plus confortablement, vous pourrez découvrir la splendeur de toutes les splendeurs de ce lieu. Un grand merci à vous. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry, vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.